This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2010 et c'est l'épisode numéro 42. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Aujourd'hui, on va vous parler de Facebook, de Intel qui fait des trucs bizarres avec les antivirus, de l'industrie de la musique, de Chrome, enfin Google, qui fait des choses dans le domaine du web et du mail et des téléphones et tout ça, plein de choses super intéressantes. Mais avant ça, je dis quand même bonjour aux animateurs, enfin, je veux dire à l'animateur, puisque je suis tout seul avec Jeff. Comment vas-tu ?
Je vais très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait très plaisir de vous retrouver après 2 mois d'absence.
Oh là là,
c'était le dernier.
C'était tellement long.
C'était la cause de Bouygues, une fois de plus.
C'est de leur faute.
Exactement.
Et je vous rassure tout de suite, Yann sera là aussi, mais en fait, il est un petit peu en retard. Et comme Yann et Jeff sont des gens très occupés, on va commencer l'émission avec Jeff et on va la finir avec Yann. Mais il y aura un moment où leurs réalités vont se overlapper, vont se superposer et ils seront là en même temps dans le même continuum espace-temps pendant quelques minutes au moins, j'espère.
Mais ce sera avec grand plaisir.
Voilà. Et donc, toi, c'était ton anniversaire, si j'ai bien compris, il y a à peine 24 heures. Donc,
ouais.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jeff, joyeux anniversaire.
Voilà. Merci, merci.
T'as fait des trucs incroyables, super beaux.
Non, c'était... Bah, tu sais, au bout d'un moment, quand tu commences à empiler les années, t'oublies. Genre, j'ai noté la délicieuse attention de ma chère femme qui ne m'a pas mis 43 bougies, mais une. Et genre, vieux con, maintenant, on compte plus. Mais
ouais, effectivement.
Mes enfants m'avaient fait un gâteau, c'était adorable.
Oh, c'est mignon. Bon, bah écoute, j'espère que tu as passé une excellente journée d'anniversaire, au moins aussi bonne que notre épisode d'aujourd'hui va l'être.
Excellente, j'ai bossé jusqu'à 3h30 du matin pour récupérer tout le temps que j'avais passé.
D'accord. Super.
Mais c'était super. Merci.
Bon, et qui se joigne à moi pour te souhaiter un excellent anniversaire, c'est toute la chatroom qui est présente sur Ustream comme toujours. Donc merci à vous d'être là aussi et de nous écouter en direct. Si vous voulez avoir des informations pour nous rejoindre en direct, c'est très simple, vous allez sur le blog de l'émission, c'est-à-dire lrdv.fr, et vous avez toutes les informations là-bas. Avant de passer à nos sujets d'actualité, je vais quand même dire 2 choses. Premièrement, comme toujours, remercier les gens qui nous ont laissé un pourboire sur le site de l'émission. Donc je remercie très 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 chaleureusement Gianluca, Michael qui nous propose des mojitos bientôt. Et bah écoute, pourquoi pas, pour le moment moi je carbure à la grenadine comme je le montre à la caméra. Je suis un petit peu plus raisonnable, on va dire. Je remercie aussi Fabrice et Philippe et j'en profite pour vous annoncer que c'est la fin des pourboires dans le Rendez-vous Tech, parce que comme ceux d'entre vous qui écoutent Upload le savent déjà, le réseau NoWatch a trouvé son premier vrai sponsor sérieux. Numericab sponsorise plusieurs émissions du réseau NoWatch pendant quelques temps. Et donc, évidemment, puisqu'on a des sous qui rentrent, on ne va pas en plus vous en demander à vous. Donc, on ne parlera plus des pourboires dans l'émission. Et je tiens, pour cette occasion, à remercier doublement et encore tous ceux qui, au cours des derniers mois et dernières années, nous ont soutenus de cette manière. Et vraiment, ça nous a fait autant plaisir que ça nous a aidés. Donc, mille merci. Et puis, j'espère qu'à partir de maintenant, on sera soutenus par nos sponsors commerciaux qui nous aideront à vous amener toutes ces émissions de manière aussi efficace qu'agréable et aussi indépendante qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Ça, on vous le garantit, on vous l'assure. Voilà pour la bonne nouvelle, et ça, donc, ça commencera à partir de la prochaine émission.
Et bravo, bravo pour avoir trouvé tes sponsors.
Merci bien. Et merci à eux de nous faire confiance en plus, parce que c'est pas forcément évident encore. Mais bon, on vous en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Pour le moment, place à l'actualité du monde de la technologie avec la première grosse nouvelle qui date maintenant d'il y a une petite semaine, un petit peu plus. Facebook Places, les lieux Facebook. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, on vous a sans doute déjà parlé de ces applications de géolocalisation qui marchent un petit peu comme des jeux où comment on dit en français,
on notifie son entourage que on est un on check-in quoi, c'est tout,
ouais,
on check-in.
Voilà, on check-in. Donc le principe est simple.
C'est comme Google.
Le principe est simple, c'est-à-dire que ça marche un petit peu comme Twitter. Vous allez vous faire une liste d'amis et puis quand vous allez à un restaurant, un bar quelque part, vous allez signaler que vous êtes à cet endroit et tous vos amis qui vous suivent vont être notifiés du fait que vous êtes à cet endroit. C'est un système qui est assez populaire aux États-Unis. C'est un petit peu moins populaire en France, mais quand même, ça commençait à arriver. Il y a des services comme Foursquare, Goala, ce genre de choses, qui avaient basé tout leur business dessus. Et d'une certaine manière, Facebook est un petit peu venu leur manger leur repas, parce qu'ils ont annoncé la semaine dernière qu'avec l'application mobile Facebook, que ce soit sur iPhone ou les autres téléphones portables, on allait pouvoir faire un petit peu la même chose. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à ce niveau-là. D'une part, est-ce que le business de ces sociétés qui avaient vraiment le vent en poupe est mis en danger ? Et d'autre part, il y a des problèmes de vie privée qui se sont posés avec cette mise à jour des lieux sur Facebook. On va commencer avec la première chose rapidement. Toi qui es un expert de la question financière et en particulier pour les startups aux États-Unis, est-ce que Goala et Foursquare et ces choses-là, c'est terminé, ça y est, ils n'ont plus aucune chance ou
Non, je pense pas. Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils vont faire dans les quelques mois qui viennent en termes de nouveaux produits. Il y a deux choses qui vont se passer en parallèle. D'un côté, le fait que Facebook, avec ses 500 millions d'utilisateurs, rentre dans la dynamique de location-based services, donc les services de géolocalisation, veut dire que de plus en plus de gens vont avoir l'habitude, vont accéder donc à cette mécanique qui reste encore très très limitée, si tu veux, parce que si tu regardes Foursquare, c'est 3 millions d'utilisateurs, Goala je pense que c'est 2 millions, MyTown d'une boîte qui s'appelle Booyah qui est le plus gros fait peut-être 3-4 millions.
Booyah.
Donc tu vas avoir Booyah,
j'explique, c'est Booyah, c'est pas Booyah genre bouillabaisse quoi, enfin pour les francophones je précise. Pardon, continue, je t'interromps plus.
C'est bouillant, ouais. et donc, tu vas avoir au grand maximum 8 millions d'utilisateurs dans le monde qui vont utiliser ces services. Et c'est vrai qu'ils grandissent relativement rapidement. Foursquare n'a mis que 45 jours ou un mois et demi en fait, pour avoir son dernier million. Mais ça reste...
Hello.
Oula. Oh, voilà Yann.
Il nous rejoint, le son est un petit peu bizarre. Yann arrive. Oui, tu peux dire un truc, Yann ?
Eh bien, désolé pour le retard.
Ah, t'es un peu saturé, mais je pense que ça va aller. T'es un peu trop près du micro. Salut. Et on va te resaluer plus dignement dans une minute, mais je laisse Yann finir son explication sur Booyah et Goala et Foursquare.
Okay. Donc. Ça reste relativement limité comme utilisation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une dynamique de jeu. En gros, tu vas faire ton check-in pour être le maire d'un endroit, tu vas faire ton check-in pour récupérer des badges, mais il reste en fait que, bah, au bout d'un moment, c'est lassant. Donc, la question, c'est est-ce que les gens vont transférer leur activité de check-in de Foursquare, Gowalla à Facebook de manière à ce qu'ils puissent atteindre leur réseau social. C'est possible. Bon, il faut savoir que les gens qui poussent vraiment, comme moi par exemple, à chaque fois que je check-in, je balance sur Twitter, je balance sur Facebook, donc ça ne va rien changer pour moi. Si j'étais, et je ne suis pas, si j'étais dans ces boîtes-là, j'essaierais en fait de vraiment tirer parti au maximum de Facebook, donc je ferai la distribution, j'essaierai d'intégrer avec Places, etc. Et je trouverai en fait une application unique, une utilisation spécifique qui fait que j'utilise Facebook en tant que distribution, mais je ne me mets pas, si tu veux, en face de cette espèce de rouleau compresseur. J'essaierai de me mettre à côté parce que sinon ils risquent de se faire écraser. Parce qu'aujourd'hui, la dynamique chez Facebook est très simple. Ils voient quel type d'application, quel type de dynamique fonctionne, ils l'intègrent, ils le déploient et ils sont tellement énormes qu'ils deviennent instantanément les plus gros dans leur domaine. Instantanément, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années. Mais on regarde aujourd'hui les sites de photo sharing. Tu as peut-être vu cette statistique que Mark Zuckerberg a mentionnée la semaine dernière dans un événement. Mais ils sont 5 à 6 fois plus gros que les autres sites de photo sharing combinés. C'est-à-dire que tu prends tous les sites de photo sharing, tu les additionnes en termes de trafic, en termes d'upload, en termes d'image, en termes de tout, tu multiplies par 6 et t'as Facebook.
Mais c'est vrai que Facebook est bien évidemment énorme et imposant, mais pour des services comme la géolocalisation, il y a des services un petit peu différents à côté, donc Foursquare, Gowalla, etc., qui proposent non seulement le fait de se géolocaliser, mais aussi les systèmes de récompense. Si on est un petit peu plus à tel endroit, on va en devenir le maire, et ensuite ils font des partenariats avec certaines enseignes pour vous proposer des réductions dans cette boutique, par exemple. Donc, et Facebook n'est pas encore tout à fait là. On a quand même un peu l'impression que Facebook, c'est la base du service, et qu'il peut y avoir à côté de ça d'autres services un petit peu plus spécialisés. Et par exemple, l'exemple évident qu'on peut donner, en dehors du fait que en dehors des photos, ce qui est tout à fait vrai, les autres services de partage de photos peuvent continuer à fonctionner s'ils ont une communauté vivante. Mais l'autre évidence, c'est Twitter, qui fonctionne toujours très bien, même si Facebook intègre certaines des fonctionnalités de Twitter. Donc, ça ne veut pas forcément dire la fin des services de géolocalisation, à mon avis. Mais par contre, c'est sûr que c'est une énorme nouvelle que Facebook entre dans l'arène aussi.
Non, ça veut pas dire la fin, mais ça veut dire que ça les force à innover, à se poser la question de en quoi ils sont différents. Si tu veux, personnellement, moi j'utilise Foursquare parce qu'en fait j'aime bien le service. J'ai jamais utilisé MyTown, donc de Bouya, qui est censé être le plus gros, et je ne connais personne dans la vallée qui
Oui, moi non
utilise
plus.
ce truc. C'est ça qui m'amuse. Ils ont 3 millions et demi d'utilisateurs ou 4 millions, mais j'en connais aucun, c'est rare. J'ai plein de copains en fait qui ont investi chez Gowalla, mais j'ai jamais aimé la dynamique, j'ai jamais aimé le produit, je suis pas un fan. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, d'un point de vue économique, tu parlais de comment est-ce que ces gens-là évoluent, qu'est-ce qu'il en a de bien. Soit ils arrivent à se positionner sur un angle économique, que ce soit la pub, le sponsoring, la lead generation, tout ce qui est coupon, etc., etc. Soit de toute façon, à un moment ou à un autre, quelqu'un va dire, bon, bah, de toute façon, la géolocalisation, c'est un composant extrêmement important d'une offre produit. Je vais racheter ces gus pour un paquet de pognon, et puis voilà quoi. Donc, je pense pas que les boîtes soient en péril, mais c'est clair que Facebook se mettant, et ton exemple est juste. Flickr existe toujours. J'ai plein de copains qui sont chez Smogmog qui gagnent énormément d'argent sur la base d'une offre payante au niveau photo sharing. Donc, c'est pas parce que Facebook est là qu'ils vont être en risque. D'un autre côté, si Facebook, qui est un peu un rouleau compresseur, mais qui a un énorme talent en termes d'engineering, tu vois, commence à rentrer quelques fonctionnalités sympas, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très cru, hein, ce que fait
C'est
Facebook
vraiment la
Places.
base de la base.
C'est
Et
vraiment la
entre
base de la
parenthèses,
base.
je le précise, c'est pas encore disponible en Europe, donc n'essayez pas de vous exciter à mettre à jour votre application iPhone ou Android pour checker in quelque part. Le service n'est pas encore disponible en Europe.
Tiens, bah, je check-in sur Facebook Places alors.
Enfin bon, ok. Donc, un autre aspect de la chose dont je voulais parler, et je profite de cette petite virgule pour dire bonjour à Yann. Donc, tu es bien arrivé chez toi, tout va bien?
Oui, je suis vraiment désolé pour le retard, mais comme on a changé de locaux, donc le trajet est un petit peu plus loin.
D'accord.
Et donc voilà, quoi, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard.
Bon, ben, on est content de t'entendre en tout cas, parce que comme tu l'as compris et comme tu l'as su, on était très inquiet pour toi il y a environ un mois.
Oui, donc, j'ai vu ça, je suis vraiment désolé. Ça fait plaisir quand même que les gens s'inquiètent et tout. Je dis, oh, c'est cool, ils m'ont pas oublié et tout, mais effectivement, j'étais en vacances en Guadeloupe, c'est super bien passé.
D'accord.
Et je suis quand même content de revenir dans le rendez-vous tech et venir te contredire à nouveau dans les différents sujets qu'on aborde.
Bon, bah, tu vas avoir l'occasion, on va parler de
Microsoft.
De Chrome
tout à l'heure. C'est surtout le cloud, on va pouvoir se taper dessus à ce moment-là. Mais donc, pour le moment, on est toujours sur Facebook Places. Et un autre aspect donc, que je voulais aborder, c'était la question de la vie privée. Parce que c'est vrai que quand ils ont ouvert ce service, c'est un petit peu un autre chapitre de controverse qui s'est ouvert. Puisque non seulement on était c'était un service qui était sur la base du opt-out. C'est-à-dire que opt-out, ça veut dire ressortir. Et quand on dit que c'est sur la base du opt-out, ça veut dire que c'est un service sur lequel qui est activé par défaut. Et vous pouvez en sortir si vous le choisissez, mais la manière dont on pouvait en sortir était un petit peu compliquée. Il fallait aller dans différents menus, différents settings, etc., comme souvent sur Facebook. Et en plus, un autre aspect qui était un petit peu inquiétant, mais disons qui a fait se poser des questions à certaines personnes, est le fait qu'on peut faire un check-in pour certaines personnes, pour nos amis, à leur place. C'est-à-dire que si je suis dans un bar et que je vois arriver Yann Allais, Yann, il est dans la liste de mes amis sur Facebook, eh ben, je peux dire je suis dans ce bar et Yann aussi. Un petit peu comme on peut taguer les gens sur des photos. Donc, ça veut dire que Yann, on pourrait savoir où tu es sans que toi, tu n'aies pris part à ce check-in, à cette décision. Et certains se sont insurgés contre cette manière de faire. Est-ce que vous faites partie des détracteurs de ce type de technologie ou...
Bah, écoute, si j'ai dit à ma femme que je suis parti aller bosser et qu'elle voit sur mon compte Facebook que je suis dans un bar avec Patrick, ça, je t'avoue que ça la fout mal, quoi.
Oui, évidemment. Mais peut-être qu'il faut pas que tu dises à ta femme que tu vas bosser quand tu vas pas bosser, alors.
Ouais, tu ferais jamais ça, Yann.
Je prends la ligne Eric Schmidt, le PDG de Google, qui disait, bah, de toute façon, si vous voulez pas que quelqu'un sache quelque chose sur Internet, il vaut mieux que vous le fassiez pas, déjà. Donc, c'était sa politique pour respecter votre vie privée. C'était, si vous voulez pas faire quelque chose qu'il sache, ne le faites pas. Voilà.
C'est genre, lui, c'est maîtresse, par exemple.
Voilà. J'ai pas d'exemple.
Non, mais je pense, là encore, c'est parce que c'est Facebook et que les gens aiment bien crier au loup avec Facebook, mais rien ne m'empêche aujourd'hui d'être sur Foursquare et de dire bah tiens je suis à tel endroit avec notre Patrick ou je suis à tel endroit avec Yann Allais et ça ne changera rien.
Bah, à vrai dire j'irai même plus loin, excuse-moi je t'interromps, mais sur Foursquare il faudrait que j'y sois, mais non, parce que tu peux partager ça sur ton mur Facebook et effectivement tu pourrais même dire je suis tout simplement sur Facebook directement sans même passer par la case Foursquare. Entre parenthèses, le logo de Places sur Facebook, c'est un 4 un carré avec un 4 dedans, ce qui fait Foursquare. C'est une
c'est un hasard.
C'est peut-être un hasard.
C'est ce qu'ils disent.
Donc, tu peux effectivement, sur ton mur Facebook, dire « Je suis avec Patrick au bar ». Donc, le fait que je sois tagué ou pas, est-ce que ça change énormément? Oui, c'est plus précis, mais c'est pas que ça. Je sais pas. Je suis.
Non, c'est pas plus précis du tout. C'est juste, tu te dis, bah voilà, je suis à tel endroit avec un tel. La seule chose, imagine, tu envoies un message au système et le système regarde si effectivement tu es bien à cet endroit et dit, effectivement, je viens de l'authentifier, je viens de le voir, il est là, je l'ai géolocalisé. Là, ça craindrait. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas Big Brothers, quoi.
C'est-à-dire qu'en plus, tu dois... Si, par exemple, moi, je check-in Yann, tu vas avoir un message quand tu reviens sur Facebook qui va dire « Patrick vous a fait un check-in à tel endroit ». Et ça, c'est une partie que beaucoup de gens oublient de préciser. Tu vas avoir à confirmer cette chose-là, si je ne m'abuse. Donc,
Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a une confirmation.
ouais.
Mais moi, c'est plus l'idée générale, quoi. Enfin, tu t'en parlais tout à l'heure, le fait que dès que Facebook pousse une nouvelle fonctionnalité, ils t'inscrivent automatiquement à ce nouveau truc-là. Ils t'activent automatiquement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fermé mon compte Facebook. Parce que voilà, j'avais pas envie de passer mon temps à systématiquement vérifier que voilà, il n'y a pas de nouveau truc
Ah, t'as
sur lequel je
complètement
serais
quitté
inscrit.
Facebook?
Ouais, non, je suis plutôt sur Facebook. Enfin, tu peux pas te fermer ton compte Facebook, tu peux juste le désactiver. Donc, en tout cas, j'ai désactivé. Donc, je n'ai pas à me soucier de ce genre de truc. Mais voilà, c'est fondamentalement ça qui me dérange avec Facebook, cette manie qu'ils ont d'activer systématiquement les nouveaux services sur ton compte, alors que tu n'as pas forcément envie de partager ce que tu fais, quoi.
Bah, en même temps, je comprends un petit peu la phobie de la chose, parce que c'est vrai que c'est inquiétant, comme tu le dis, et c'est t'as raison d'aller au bout de ton truc et de dire bon bah moi j'en ai marre qu'ils manipulent les choses comme ça pour moi sans me demander vraiment mon avis. Bien sûr, on peut désactiver la chose, mais bon, c'est compliqué. En même temps, si je vois la chose du côté de Facebook, encore une fois, si j'essaye de voir l'autre côté de l'argument. C'est vrai que c'est difficile enfin, les gens ne vont pas aller activer la chose par eux-mêmes ou beaucoup de gens ne le feront pas, quoi. Quand on commence à parler à 500 millions de personnes, enfin, une immense partie des gens ne savent même pas de quoi il s'agit, de quoi on parle quand on leur dit, ils parlent de géolocalisation, donc ils vont jamais aller l'activer. Donc s'ils veulent vraiment que le service serve à quelque chose, 500 millions de personnes, c'est pas 1 million de personnes, quoi. Donc je sais pas où est la vraie réponse, où est la vérité là-dedans, mais je comprends un petit peu les deux côtés. Surtout que, chose importante, on peut le désactiver. Ça, c'est le plus important, quoi. En fait.
Exactement.
Ok, ça pourrait être plus simple, ceci dit, hein. C'est quand même un peu complicado de désactiver la chose. Ça pourrait être plus simple, c'est la seule chose qui rendrait la chose vraiment bonne. S'il suffisait de cliquer un bouton et de dire « je désactive Places » ou deux boutons pour dire « je désactive le fait que mes amis me check-in » et plus version 2, « je désactive complètement », ça serait mieux, mais bon.
Leur approche est toujours de faire une première implémentation, de voir le feedback utilisateur. S'ils se font pendre haut et court, ils prennent des mesures immédiatement. Sinon, ils écoutent. Je pense que c'est une mécanique naturelle pour Facebook d'intégrer la géolocalisation. Twitter, c'est pareil. Twitter, en fait, va faire un estampillage géolocalisé de tous tes tweets. Bon, bah,
Ouais,
c'est
mais
comme
c'est
ça,
toi
quoi.
qui as écrit tes tweets. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va influencer sur les informations que je publie moi. Tu vois,
Ah, mais ça peut
c'est...
se choisir.
Mais bon, voilà. C'est l'idée
Ok.
générale.
Bon, effectivement. Écoutez, je vous propose qu'on passe. On ne trouvera pas la réponse finale. On vous invite chacun, vous,
Moi, j'aurai la
auditeurs.
réponse finale. Toute résistance est futile.
Non, c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu
Bah,
ça
où est-ce que je
aussi.
peux...
La seule solution, c'est de quitter complètement. Si vous n'êtes pas content, c'est de quitter Facebook. Et ça donne la vraie. Enfin, vous mettez vos actions là où sont vos paroles pour faire une sorte d'anglicisme traduit.
T'as passé beaucoup de temps avec des Anglais, toi, parce que t'arrêtes pas, hein.
C'est pas faux. Et donc, on va passer à un autre géant qui a fait un truc un petit peu bizarroïde la semaine dernière. C'est Intel, donc le fabricant de processeurs, hein, vous connaissez Intel Inside, les Pentium 486 pour les vieux, qui a racheté McAfee, qui est le développeur lui aussi très connu de l'antivirus McAfee. Et là, on se dit, fabricant de processeurs, donc matériel, et antivirus, donc logiciel, on a un petit peu de mal à voir le lien. Et je vous avoue que moi, j'ai entendu énormément de théories, j'ai écouté énormément de choses, et aucune ne m'a complètement convaincu. Je ne sais pas vraiment pourquoi un tel serait allé acheter McAfee, en plus pour une somme totalement hallucinante. Ils l'ont payé combien? 7 milliards de dollars?
Ouais, près de 8
Hein?
milliards de
Près du
dollars, ouais.
milliard, ouais. Donc, bon, j'ai deux experts comme ça à ma disposition immédiatement, et je suis sûr que vous allez savoir. Donc, pourquoi un tel a-t-il acheté McAfee?
Bah, je pense que tout le monde est plus ou moins perdu avec cet achat. Tout le monde se risque à des explications plus ou moins farfelues, mais personne ne sait vraiment. Parce que c'est quand même un prix exorbitant. Comme tu l'as dit, Intel, c'est avant tout un constructeur donc qui fait du hardware. McAfee, c'est du software. Ils montrent un système d'exploitation au milieu. Alors, certes, ils ont un système d'exploitation qui s'appelle Moblin, je crois. Mais quand même, c'est un OS qui a une part de marché vraiment mineure quand on le compare à Windows ou même macOS. Et donc, un tel investissement juste pour sécuriser cette plateforme qui perd sa peine, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Je crois que j'avais entendu sur le podcast de Tom Merritt, quelqu'un qui avait dit que oui, qu'il prépare en fin de compte le fait de d'éventuellement équiper les automobiles comme comme rajouter une corde à son arc. Alors oui, on fait des
Entre
processeurs
parenthèses,
performants et en plus ils sont sécurisés.
c'est Tech News Today, le podcast sur lequel je serai mercredi pour ceux que ça intéresse.
Ah ben voilà.
T'es fort, Patrick.
Non, non, mais je le... ah, mais pas du tout. Bon, bref. Ok. Oui, donc effectivement, il disait ça et c'était bon pour les voitures. Oui, c'est sûr que les voitures, faut pas qu'elles soient, tu vois, s'il y a un virus sur ta voiture, c'est effectivement encore plus un problème que si ton ordinateur. Tu vois, si tu peux pas jouer à Là, je vais encore faire référence aux anciens puisqu'on parle d'un tel 486. Si tu peux pas jouer à Duke Nukem 3D pendant la journée parce que ton ordinateur est bouffé, c'est ennuyeux, mais c'est pas dramatique. Par contre, si ta voiture va tout droit quand tu tournes parce qu'il y a eu un virus, là, c'est un peu plus chiant. Mais
non, mais c'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est Paul Tellini, son antivirus était arrivé à expiration. Il dit, achetez-moi ma café. Il y a ces mecs qui reviennent et disent, c'est bon, on l'a eu. On a juste payé 8 milliards. Et le mec, il dit, pour une licence.
Mais t'es pas, je pense que t'es pas très loin de la réalité en fait, parce que Intel, il brasse tellement d'argent que finalement, des fois, je me demande si ils ont pas juste, ils sont pas juste dit, bah, tiens, on pourrait racheter McAfee, ils font du fric, bah, tiens, on va faire un petit investissement. Je me demande
Non,
même
enfin,
si c'est pas un coup de folie comme ça, parce que y a vraiment aucune explication.
8 milliards, c'est quand même un peu cher.
Oui,
Non, bon, blague à
pas
part.
Intel,
Je
quoi.
pense que, objectivement, un des gros problèmes qu'Intel a, c'est que dans sa lutte intestine avec AMD, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, donc, c'est limiter la casse sur les parts de marché. Mais en fait, ce sont des business qui sont extrêmement limités en termes de marge. Et donc, Intel a énormément de cash. Ils ont des dizaines de milliards de dollars en cash. Et donc, ils ont décidé d'utiliser ces ressources pour faire des acquisitions stratégiques. Une acquisition stratégique, c'est McAfee. Oui, c'est extrêmement cher, mais McAfee, c'est quand même une très belle boîte. Ils ont une position de leader sur leur marché, enfin de co-leader sur leur marché. Et donc ça donne à Intel une autre position en fait dans la stack logicielle. Donc la sécurité, ils pensent que c'est quelque chose qui va se développer en termes de besoins, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le consommateur. Et ils ont aussi acheté quelque chose aujourd'hui pour. Ah non, où c'est HP? Non, où je confonds avec HP. Qui c'est qui a acheté Infineon ce matin? Il y a une autre
Oui, oui,
c'est pas
oui.
moi.
Que je te dise pas de bêtises. Infineon, ce matin, c'était. Mais c'était Intel, oui, c'est bien Intel.
C'est bien
Si
Intel.
je ne m'abuse. Attends, je vais vérifier en direct. C'est bien Intel, puisqu'il. Oui, j'ai pas retrouvé, mais je suis 99% sûr que c'est Intel, puisque ça leur
Oui,
donne une.
c'est bien Intel, j'ai la confirmation, oui.
D'accord, ok.
Pour quoi? Pour 2 milliards, un truc comme ça?
Je sais plus pour combien, mais.
1,227 milliard.
Infineon, ils
Bon,
font des
allez, je te le
puces.
fais à 2 milliards. Je te le fais à 2 milliards. Bon,
Infineon, ils font des puces 3G, des puces réseau, c'est ça?
ils font des puces réseau et ce sont les puces réseau de
Phone.
iPhone. Voilà.
iPhone, mais aussi de Nokia, LG, donc c'est pas juste iPhone.
Donc, bon, ça, en gros, c'est simplement pour avoir d'autres positions stratégiques sur le marché. C'est pas qu'ils veulent spécialement intégrer les antivirus, par exemple, aux puces de demain. Il y aura des antivirus intégrés ou alors des puces optimisées pour antivirus ou ce genre de choses. C'est un autre business qu'ils ont acquis, à
Ouais,
ton avis.
probablement. Ouais.
Je pense que c'est assez logique de penser ça, mais on sait jamais. On va voir un peu comment est-ce qu'on on va voir un peu quel type de comment on dit l'erreur stratégique comment
De
en fait
puissance
utiliser
stratégique qu'ils vont
comment ils
utiliser.
peuvent utiliser l'acquisition de McAfee au niveau stratégique par rapport à leur activité de microprocesseur. Mais je pense qu'il faut pas oublier, et j'étais juste avant juste avant les vacances, j'étais en Corée pour rencontrer le CEO de Samsung, et le mec il te dit
Oh, il est trop fort, Jeff, il
je
est
pèse
trop
118
fort.
milliards je pèse
Moi je dis je passe chez TNT et lui il me sort, je rencontre le CEO de Samsung. Ah, tu m'as enterré là, salopio.
Ah,
Vas-y.
et donc le seul point que je voulais faire, c'est que c'est un Gus qui pèse 118 milliards de dollars de revenus annuels, mais Tu regardes ses marges, c'est à peine 10 milliards de dollars. Donc ce sont des environnements où tu fais énormément de volume, mais où tu fais des centièmes ou des millièmes de cents de profit. Et donc il faut aller chercher quelque part dans la stack au-dessus une source de profit supplémentaire.
Et puis c'est un peu la mode en ce moment. Je vois beaucoup de sociétés qui rachètent d'autres sociétés pour leur base de brevets qu'ils possèdent. Donc c'est aussi peut-être que McAfee avait dans ses coffres quelques brevets qui permettraient à Intel de répondre à d'éventuelles poursuites en justice de notre constructeur, quoi. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi.
J'ai pas l'impression que ça soit le cas, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup en ce moment.
Ouais.
D'ailleurs, entre parenthèses, Paul Allen, un ancien de Microsoft, a fait un procès à Apple, Google, eBay.
Ah ouais, j'ai vu ça.
C'est invraisemblable ce qui est en train de se passer, justement parce que, soi-disant, ils auraient des logiciels qui utilisent des procédés brevetés par sa société dont j'ai oublié le nom. Et c'est une opération tellement énorme que, justement, on
Vulcan
parlait de
Ventures.
podcast, voilà, dont on parlait de podcast américain tout à l'heure. Les théories les plus folles, que j'en ai entendu une sur le podcast de Léo Laporte, This Week in Tech, vous diraient que ça serait une manière de montrer aux gens que, en faisant ce procès à tous ces gens-là, ils vont se faire, lui-même va perdre le procès de manière spectaculaire, et donc ça fera jurisprudence pour montrer que les brevets logiciels ne sont pas une bonne chose. C'est encore une fois un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est tellement incompréhensible comme procès que...
Ouais.
Enfin, bon. Je vous propose de passer au troisième sujet, et j'ai inversé un petit peu l'ordre des sujets que j'avais établis pour traiter celui-ci avec Jeff, parce que la semaine dernière, Google a annoncé qu'ils intégraient une énorme fonctionnalité dans Gmail, c'est-à-dire que vous savez qu'il y avait depuis longtemps le système de Google Chat dans Gmail, qui est un logiciel de chat hein, classique comme Skype ou ICQ ou MSN Messenger, etc. Et bien là, ils ont intégré à ce Google Chat ce qu'ils appellent Gmail Call, c'est-à-dire des conversations téléphoniques. Donc, pendant un temps limité, pour les gens qui sont aux États-Unis, on peut appeler aux États-Unis et au Canada totalement gratuitement un téléphone normal, donc pas quelqu'un par le logiciel de chat, mais comme c'est le cas pour Skype, on peut appeler un téléphone normal, sauf que là c'est gratuit jusqu'à la fin d'année, et évidemment ils ont des tarifs très intéressants pour les appels à l'international, et c'est assez énorme puisque ça veut dire que Google met le pied dans la porte des services de téléphonie. Enfin, c'est monumental comme nouvelle quand même. Moi, je trouve ça énorme parce que ça va sans doute se développer beaucoup plus loin. J'exagère ou c'est effectivement énorme, Jeff?
C'est une évolution logique. Quand tu regardes d'un côté Google Talk, de l'autre côté Google Voice, c'est une façon très très intelligente, à mon sens, d'aller faire la nique à Skype. Le fait que tu aies des sponsors maintenant, on peut continuer à dire des gros mots, c'est OK.
Oh oui, on va pas
merci.
se transformer non plus.
Et donc, je pense que c'est effectivement une fonctionnalité assez intéressante. Je l'ai pas essayé parce que je suis pas j'utilise pas en fait l'application de Gmail, j'utilise un client. Mais ça me semble être super intéressant.
D'accord. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'avenir, qu'on pourrait imaginer... Je dis n'importe quoi, mais disons une sorte de Google Phone sans réseau 3G, mais uniquement en Wi-Fi, ou alors une tablette, ou Dieu sait quoi, tous les autres appareils Google qui pourraient passer des coups de fil de la même manière qu'un téléphone normal, mais sans 3G, uniquement en Wi-Fi, comme un iPhone, par exemple, pardon, un iPod Touch avec Skype, aujourd'hui, il peut en quelque sorte passer des appels. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour des appareils sous Android qui seraient des téléphones sans vraiment téléphone? Enfin, où je vais trop loin là?
Non, je pense que c'est quelque chose qui peut
Non?
éventuellement arriver. C'est la première étape. On le met d'abord dans Gmail, on commence à faire monter notre base d'utilisateurs, reprendre le feedback, et puis quand ça commence à bien tourner, on le décline sur Android, et puis on fait ça passer par le net. Donc, je pense que ça va aller petit à petit. Mais en ce qui concerne la fonctionnalité à l'intérieur de Gmail, bof, voilà quoi. C'est-à-dire, comme Jeff, moi je préfère encore un Skype, parce que c'est toujours le même problème. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Chrome Web Store. Mais voilà, le truc c'est que pour l'utiliser, tu es obligé de lancer ton client, en fait, ton Chrome. Et donc, du coup, c'est. Voilà quoi. Je pense que c'est quelque chose que tu vas utiliser une fois comme ça pour déconner, ou dire ah, c'est marrant et tout. Mais je le vois pas comme. Voilà quoi. J'ai envie de passer un coup de fil. Ben, comme c'est gratuit sur Gmail, je vais lancer mon ordinateur, lancer Chrome et me connecter et passer mon
Mais
coup de fil.
on aura cette conversation à nouveau dans quelques minutes, mais est-ce que tu ne te disais pas ça à l'époque du mail justement? Et enfin, peut-être que tu n'utilises pas Gmail toi aujourd'hui, mais
Si,
est-ce
si.
que si? Alors est-ce que tu ne te disais pas à l'époque du mail, oui ben moi je veux pas lancer mon navigateur pour checker mon mail. Et puis avec l'habitude, avec le temps, tu t'y es fait et c'est plus
Mais,
si
je, mais le
contraignant.
truc, c'est que je ne lance pas mon navigateur pour checker mes mails. Je check mes mails uniquement avec mon iPhone. Et c'est quand je ne l'ai pas à proximité que je cherche l'autre truc le plus pratique. Et à ce moment-là, il y a le
Ouais,
client
d'accord.
mail. Mais pour moi, le client mail est juste là pour dépanner en quelque sorte. Donc, OK, ça dépanne pour passer un coup de fil de pouvoir le faire depuis Gmail. Mais ce ne sera
Ouais,
pas
bah toi,
mon
t'es.
premier.
Ouais, t'as vraiment des habitudes étranges, hein.
Ouais, non,
Oui, Jeff, tu
j'allais
voulais.
dire, j'utilise mon mail pour passer des coups de fil, mais j'utilise mon téléphone pour lire mon mail. Non, non, je pense que
C'est
c'est
vrai, c'est vrai.
je pense que c'est super smart pour deux choses. Un, pour moi, c'est comment est-ce que on essaie de pousser la partie Google Voice, accès PSTN, machin, etc. Utiliser Gmail comme comme un Trojan, je pense que c'est très intéressant. Et ça remet aussi,
Comme
en
un cheval
fait,
de
en
Troie, ouais.
question, OK, mais ça sert à quoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ton numéro de téléphone si je connais ton adresse Gmail? Tu vois, c'est in fine, c'est redéfinir l'adressage et se poser la question de avec quoi on va communiquer d'ici quelques années. Je pense que c'est un développement intéressant. Où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. D'un autre
D'accord.
côté, je ne pense pas que Skype reste sur l'expectative. Bon, ils sont énormes, on le sait, 680 millions d'utilisateurs, encore plus gros que Facebook. Et des rumeurs de rachat potentiel par Cisco maintenant qu'ils ont filé leur S1 pour 5 milliards, alors qu'ils ont été rachetés il y a à peu près un an pour 2 milliards et demi. Je te
Je
dis pas le
comprends plus ce que
bonus.
tu dis là.
T'as pas vu la rumeur?
J'ai vu la rumeur, mais je voulais juste que tu expliques en fait un petit peu, parce qu'avec les termes anglais, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Qu'ils ont
Bah en
filé
fait.
leur S1.
Oh, pardon. Mes excuses, mes excuses. Donc, Skype a été racheté par un groupe d'investisseurs à eBay il y a un an et demi pour 2 milliards et demi. Ils sont maintenant indépendants, ils continuent à grossir de façon énorme. C'est une boîte qui fait à peu près 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais seulement une dizaine de milliards de profits. Et ils ont signifié auprès des instances des marchés publics, qu'ils souhaitaient aller sur le Nasdaq. Donc,
D'accord.
ils souhaitaient se mettre sur le marché. Et donc, la procédure aux États-Unis, c'est soumettre auprès de la SEC un papier qui s'appelle le S1. C'est un document qui
Retrait de
fait des milliers de
formulaire.
pages. Et donc, quand on dit filer son S1, ça veut dire je veux aller sur les marchés publics. Et
D'accord.
donc, aujourd'hui aux États-Unis, c'est une pratique assez courante que de filer son S1 pour dire coucou les acheteurs potentiels,
Ouais.
c'est maintenant qu'il faut venir pour discuter. Et effectivement, il semblerait que Cisco, qui n'a jamais acheté de boîte dans le domaine des services, il y a une rumeur comme quoi Cisco est en train de regarder. Alors en gros, la rumeur que Cisco regarde, c'est Skype qui l'a laissé sortir, évidemment, de manière à ce que les autres acheteurs potentiels se disent oh bah non, on veut pas que Cisco l'achète.
Ouais,
Et donc,
d'accord.
on va voir un petit peu ce qui va se passer.
Ouais. Mais disons qu'entre ça, Google Talk, FaceTime qui risque d'ici 2 jours d'arriver sur l'iPod Touch, qui est très probablement en train d'arriver sur l'iPod Touch avec la conférence que fait Apple mercredi 1er septembre, que vous pourrez d'ailleurs certainement suivre en direct grâce à Mathieu Blanco qui va nous faire un petit live des familles et dont on vous parlera dans le prochain épisode aussi. Donc FaceTime qui va arriver sur les iPod Touch, etc. De plus en plus est en train de se réaliser ce dont on parle depuis des mois, voire des années, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès téléphonique sont en train de se transformer en simples fournisseurs de données et plus, ils ne transportent plus autant la voix qu'ils transportent les données.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Qui inclut de la voix et d'autres choses. Donc, bon, c'est effectivement une réalisation de quelque chose qu'on avait prévu depuis un moment, mais c'est intéressant de le voir se réaliser. Et à propos de fournisseurs de données et d'opérateurs de téléphonie mobile, j'inverse encore les sujets. Puisqu'il y a eu un développement intéressant au partenariat entre Orange et Deezer, puisque vous le savez, il y a environ un mois et demi, Orange a pris une participation dans Deezer à fermer son service de musique en ligne. Et donc, en gros, aujourd'hui, Orange et Deezer sont main dans la main, et si je ne m'abuse, Orange a une part de Deezer. Donc, c'est un petit peu, c'est pas une qu'ils ont fusionné, mais en gros, Orange et Deezer, c'est un petit peu la même chose. Or, Orange a annoncé il y a une semaine environ un nouvel abonnement chez Deezer qui est très 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 inquiétant. Je dis pas ça juste pour que ça soit amusant, je dis ça parce que je suis véritablement préoccupé par ce qui s'est passé il y a une semaine. J'ai même eu envie de la mettre en première actualité, mais bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En gros, ce nouvel abonnement vous permet d'écouter Deezer autant que vous voulez, sans publicité, sans interruption, ce qui est normal. C'est un abonnement à 10€. Et vous pouvez aussi l'écouter sur votre téléphone mobile. Là encore, rien d'invraisemblable. Pareil pour Spotify, pareil pour d'autres services du genre. Vous payez un abonnement de 10€ par mois, vous pouvez l'écouter sur votre mobile aussi. Sauf que là, Deezer et Orange étant partenaires, vous pouvez écouter Deezer sur le réseau Orange, mais vous le savez bien sûr, sur le réseau Orange 3G, les abonnements sont limités à 1 giga de transfert par mois. Sauf que Deezer n'est pas soumis à cette limite de 1 giga. Et ça n'a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais c'est, comme je le disais, extrêmement important parce que ça veut dire que Orange fait une différence entre le service de Deezer et les autres services. C'est-à-dire qu'il favorise Deezer par rapport aux autres sociétés, aux autres fournisseurs de services, aux autres parties d'Internet. Et là, on retombe sur les problèmes de neutralité du net qui sont extrêmement importants parce que imaginez qu'un autre service de musique en ligne vous propose le même type d'abonnement. Eh bien, si vous êtes un consommateur de musique conséquent, vous allez vous dire « Ah ben merde, moi si je vais chez Spotify, je vais exploser mon forfait Orange de 1 giga, alors que chez Deezer, lui, je peux écouter autant que je veux. Donc, je vais plutôt aller chez Deezer. Il n'y a pas de raison de prendre un forfait au même prix chez Spotify si Orange me limite. » Ce qui est extrêmement dangereux, parce que d'une part, déjà avec la musique, c'est ennuyeux, mais imaginez ensuite des services comme, je ne sais pas moi, des vidéos, ou enfin, peu importe, n'importe quoi. Ça veut dire que Orange décide qui est susceptible d'utiliser Internet normalement sur son réseau et qui ne peut pas. Et ça veut dire que si une autre société sort un concept intéressant, sort une nouvelle idée, sort quelque chose qui est un petit peu gourmand en bande passante, eh ben, Orange peut dire bah, « Non, on va choisir telle société plutôt que telle société et telle société pourra utiliser notre réseau normalement et pas les autres. » Et j'espère que les instances européennes vont s'intéresser à ce problème parce que c'est, encore une fois, extrêmement dangereux. Oui, non. Oula, je vous ai saoulé, je sens.
Non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de dire que décidément, c'est vraiment très difficile parce que je vais encore me faire l'avocat du diable, même si je partage ton inquiétude d'une façon générale. Mais bon, Orange, ils ont mis du blé sur Deezer et moi, en tant que abonné Orange, ben moi ça me plaît quoi que voilà si le fait que je sois chez Orange ben il y a une limitation qui va sauter. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, enfin tu peux le voir comme tu l'as dit, mais certaines personnes vont se dire ah ben cool, je peux l'utiliser de façon illimitée et donc je vois ça plutôt comme quelque chose de positif sur ce point-là. Et l'autre chose c'est que comment je pourrais dire ça. Moi tout le monde parle de neutralité du net, qu'il faut faire attention qu'ils ne prioritisent pas certains services par rapport à d'autres. Moi, je me demande si ils l'ont pas déjà fait, en fait, si ça c'est pas déjà en cours et que c'est juste que là, ils essaient d'officialiser un petit peu le truc et qu'on en parle sur tous les toits. Mais je sais pas si tu connais un site, par exemple, qui s'appelle speedtest.net, qui te permet de tester ta bande passante. Moi, j'ai pris une ligne à 30 mégabits à Montréal. Dès que je vais sur ce site-là, il me dit, voilà, t'as 30 mégabits de téléchargement. 30, il me dit pas 28, il me dit pas 29, il me dit 30 direct, t'as le maximum. Et pourtant, j'ai jamais eu un débit qui se rapproche, mais même de 50% de ce truc-là, tu vois. Et quelque part, je me dis, mais est-ce que finalement, ben, mon fournisseur d'accès, il n'a pas fait en sorte pour que, comme il sait que beaucoup de gens testent leur ligne sur ce site qui est très très connu, ben, on va ouvrir un petit peu les vannes sur ce site-là, comme ça les gens seront satisfaits de leur ligne, tu vois. Moi, je serais pas surpris que
les fournisseurs d'accès. D'accord, mais enfin, si c'est le cas, c'est un problème aussi. Ça veut pas dire que les autres qui font des trucs bizarroïdes peuvent les faire. Ça veut dire que ton fournisseur a effectivement traficoté son réseau pour que il ait des bons scores sur ce site, et ça c'est répréhensible aussi. Enfin.
Oui, mais je suis pas persuadé que ça ne se fasse pas. Je vois pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin quoi de cette neutralité du net.
Bah parce que okay, imagine que demain Orange fasse un partenariat avec Dailymotion, ça veut dire que tu pourras plus vraiment utiliser YouTube parce que Dailymotion n'est pas soumis à la limite, YouTube oui. Donc à chaque fois que tu vas sur YouTube, tu fais oh mon Dieu merde, je vais peut-être atteindre ma limite, etc.
Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a un truc que j'ai remarqué également hein, dans tout ce monde numérique, c'est qu'à chaque fois qu'on met des barrières, qu'on essaie de bloquer, qu'on bride les services, t'as toujours un marché qui se crée et des nouveaux challengers qui arrivent pour te proposer un contournement. Quand Adobe est arrivé, ben, tout de suite, t'as commencé à avoir des high predators et des trucs qui te permettent de contourner les différents systèmes et t'as des nouveaux marchés.
Mais tu mélanges tout, Yann. D'une part, tu mélanges tout et d'autre part, tu te bats activement contre le cloud parce que tu n'aimes pas ça et donc tu veux qu'il échoue.
Pourquoi tu parles
c'est
de
terrible.
Cloud. Non. Pas du
bon,
tout,
les
non.
Gamins, là, c'est fini, oui.
Bon, Jeff, départage-nous. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, c'est un peu surprenant, effectivement, que. Ils puissent faire ça parce que suivant les règles de neutralité, je pense qu'il y aurait une lawsuit immédiate aux États-Unis si ça arrivait.
Un procès.
Donc, je pense, un procès si ça arrivait. Parce que la notion de on a investi, donc on a un service préférentiel, je pense que la question c'est est-ce que si Spotify s'approche d'Orange et essaie de négocier un deal, est-ce qu'ils vont leur dire non, on est complètement fermé à toute discussion avec vous Spotify, ou est-ce qu'ils vont réussir à avoir le même deal? C'est ça la question en fait.
Ah bah a priori donc, non, ils n'auront pas le même deal. C'est un deal avec Deezer dans lequel ils ont une participation. Donc
ouais. Ouais, mais imagine que Daniel aille voir le Gus d'Orange et puis lui disent et du con ok on baisse nos prix aussi, on veut être dispo à tel prix. Est-ce que si jamais il dit non c'est préférentiel, on veut que Deezer ait un meilleur prix que vous et donc on veut vous nuire, à ce moment-là c'est un problème de concurrence.
Ouais. Bon, moi je crois que ça va se finir devant les tribunaux, cette histoire. C'est pas possible que ça reste comme ça. C'est tellement en plus Orange a été tellement opposé à la neutralité du net que Yann visiblement déteste et voudrait voir mourir.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah, si tu l'as dit, on a des témoins.
De toute façon, il s'en fout, il utilise pas l'email puisqu'il utilise que son téléphone pour lire son email.
Mais est-ce que j'ai une question pour toi ? Est-ce que si Orange avait
on t'entend plus très bien. Rapproche-toi du micro, Yann.
Désolé. Si Orange avait complètement acquis Deezer, l'avait rebrandé, l'avait dit, l'avait appelé, je sais pas moi, Orange Music, et que du coup, on te dit, ben voilà, si vous payez un abonnement Orange Plus, ben vous avez accès à l'offre Orange Music. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait de façon illimitée, pas limité à 1 giga ? Est-ce que ça t'aurait choqué aussi ? Ou est-ce que c'est le fait que
À partir du moment où ça passe par Internet et Orange Music est un service sur Internet, oui, parce que ça attaque la neutralité du net. Mais bon, peut-être qu'on va pas se relancer sur la neutralité du net encore une fois. Bon, on a donné nos opinions. Visiblement, une fois de plus, Yann a tort, mais on va pas s'étendre là-dessus plus longtemps. On va plutôt tomber sur les inepties de la RIAA, de la Recording Industry Association of America. Est-ce que tu as encore un peu de temps, Jeff, ou est-ce qu'on doit te laisser partir ?
Encore un petit sujet, et puis je m'en vais à tâtons.
Alors, trois petites news rapides sur les frasques de la RIAA qu'on connaît bien aux États-Unis. Première chose, la RIAA voudrait qu'on impose une loi qui oblige tous les constructeurs de téléphones portables à intégrer des radios FM à tous leurs téléphones, parce que pour la RIAA, la radio est le seul moyen de continuer à faire vivre la musique, donc ils veulent que tous les téléphones portables aient la radio d'office obligée. Première chose, déjà c'est passablement ridicule. Deuxième chose, on vous parlait là encore il y a quelque temps du deal entre Google et Verizon qui est extrêmement dangereux pour la neutralité du net. Là encore, moi, je suis monté sur mon immense cheval et j'ai claironné que c'était très dangereux. Et on en voit les premières conséquences, puisque la RIAA dit « Oui, bon, on est en train d'étudier cette proposition de Google et Verizon parce que dans leur petit micmac, là, il y a des choses intéressantes et il faudrait en plus garantir que leur accord protège les utilisateurs de la pédophilie et de la piraterie. » Donc, on ne sait pas ce que les deux viennent faire ensemble et on ne sait pas pourquoi tout à coup la RIAA veut absolument défendre le consommateur de la pédophilie. On ne sait pas pourquoi c'est leur business. Mais bon, on se doute bien qu'ils collent les deux l'un avec l'autre pour pouvoir justifier le fait qu'ils disent « la piraterie, c'est super méchant » et ils collent ensemble piraterie et pédophilie. Et ils disent donc qu'il faudrait que ce deal inclue des choses comme ça. Vous vous référerez à l'épisode où on en parle pour en savoir un petit peu plus. Évidemment, on avait prédit que ce genre de choses pourrait arriver et visiblement, c'est en train d'être insinué par la RIAA. Et dernière chose, là encore, on entre un petit peu dans les détails de la légalité, mais vous connaissez certainement le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui est une immense étendue de la question du copyright sur les réseaux Internet, sur le réseau Internet. Et la RIAA a estimé aujourd'hui, après une dizaine d'années environ de pratique du DMCA, que cette immense, immense étendue du copyright n'était plus suffisant. Donc il fallait faire quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus puissant et d'encore plus invasif pour protéger la musique. Donc, ils ont fait en une semaine trois déclarations énormes qui, à mon sens, sont... Enfin, on commence à avoir l'habitude, mais j'espère que les gens qui font les lois aux États-Unis ne vont pas les écouter parce qu'ils sont hors de contrôle, quoi.
Bah, malheureusement, c'est un énorme lobby qui dépense énormément d'argent à Washington pour graisser la patte. Non, j'ai pas... c'est pas vraiment graisser la patte, mais bon, pour faire en sorte que leurs intérêts soient défendus, que ce soit par les républicains ou par les démocrates. Et donc, la raison pour laquelle ils sont capables d'énacter ce genre de débilité, c'est parce que bah, y a beaucoup d'argent qui essaie de se protéger. Et effectivement, c'est, j'espère que ce sont les... Tu vois, les derniers mouvements de ces dinosaures qui, in fine, disparaîtront. Mais c'est vrai que là, ça commence à vraiment être débile, quoi.
Ben, on est d'accord que, parce qu'un truc comme le fait d'imposer une radio FM sur tous les téléphones, c'est même plus... Enfin, on marche sur la tête, je veux dire. Même au niveau du business, le fait de dicter aux constructeurs comment ils doivent construire leurs appareils, non pas pour des questions de sécurité ou de protection ou Dieu sait quoi, simplement... pour sauvegarder une autre industrie qui n'arrive pas à se renouveler, c'est ubuesque, quoi.
Oui, c'est débile. C'est complètement débile. Et j'espère que ce sera soit ce sera dégagé, soit en fait les constructeurs réussiront à trouver un trou légal dans lequel ils rentreront pour dire « Ah bah non, on peut pas parce que... »
Non, enfin, de toute façon, ils l'ont juste demandé, hein, évidemment. C'est, ouais. La loi n'est même pas proposée. C'est juste un truc qui...
Ça va émettre trop d'émissions, ça va être d'émissions et donc ça va être dangereux pour les gens. Voilà. Moi, je pense.
Yann, tu as un avis sur la question. Peut-être que tu vas d'accord avec eux, non?
Non, je partage votre point de vue. C'est un peu n'importe quoi d'essayer de sauvegarder les... truc qui mord déjà, laissez-les crever et qu'on parte avec quelque chose de plus moderne.
Non, enfin, voilà. Être contre la piraterie, évidemment, être contre les questions vraiment illégales, oui, mais enfin, il y a des limites du bon sens, quoi, et là, on les a atteints.
Et là, c'est clairement
au-delà.
Plus le cas. Je vais vous laisser.
Oui, si c'est possible. Tu dois partir, donc merci bien sûr de t'être joint à nous, même si c'était comme toujours bien trop court, mais on te retrouve donc dans deux épisodes pour le prochain épisode.
C'était
classique.
Avec grand plaisir et je vous retrouve dans deux épisodes. Et en passant, je fais un coucou à Nat, je ne sais pas si elle nous écoute, mais ton ancienne compère qui s'est mariée la semaine dernière, à qui on fait un gros bisou.
Tout, et je me joins à toi pour le bisou.
Et
merci.
Moi aussi. À bientôt Jeff.
Allez,
à bientôt
salut à tous.
Jeff, ciao, bon courage pour la journée. Bon, eh ben écoute, on n'est plus que tous les deux et on va s'attaquer à l'autre sujet bien juteux qui est celui du Chrome Web Store. Alors, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Google a annoncé il y a, ça doit faire 6 mois peut-être, non ?
Ouais, quelque chose comme ça, le Chrome OS ?
Le Chrome OS et surtout le Web Store, qui est en fait une sorte d'App Store, mais pour les applications web. Et cet App Store servirait à deux choses. Enfin, ce Web Store servira à deux choses. D'une part, pour Google Chrome, le navigateur, pour donner un endroit où les gens peuvent installer des applications, hein, de manière très simple, sur leur navigateur, et donc pour utiliser le web un petit peu plus comme la base de différents programmes qu'ils utiliseraient, et aussi bien sûr pour poser les bases de leur système d'exploitation Chrome OS, qui là est plutôt un véritable système d'exploitation qui équiperait les ordinateurs un petit peu légers comme des netbooks, ou peut-être même des ordinateurs un petit peu plus lourds, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on va sur le Chrome Web Store et on a l'application, disons, je dis n'importe quoi, mais l'application Gmail, et ben ça nous donne l'application Gmail qui se lance à travers cette interface et qui nous donne accès à Gmail, mais plus facilement. Pareil pour l'application, par exemple, Facebook, mais on peut imaginer d'autres choses aussi, comme des logiciels de retouche d'image, des logiciels de traitement de texte comme Google Docs, ou enfin, toutes sortes d'applications différentes, dans les limites de la programmation web et aussi, dans une certaine mesure, dans le fait qu'il faut être connecté. Mais si on peut avoir des doutes pour le Chrome OS en lui-même, donc le système d'exploitation complet qui serait basé sur ces applications. Moi, je pense que pour Chrome, le navigateur, ça peut amener une véritable évolution, puisque ça donnera un moyen super facile d'installer des applications sympas. Et ils ont notamment montré certaines applications de jeux qui étaient assez convaincantes et qui montrait qu'avec différents moyens, et notamment Flash, cette technologie dont on vous parle beaucoup, on pouvait avoir des résultats très intéressants, avec ou sans Flash, hein, c'est pas obligatoire, mais on pouvait avoir des résultats intéressants. Et moi, je pense véritablement que ce web store peut changer un petit peu la manière dont on approche le web et peut amener une part de l'évolution et même de la révolution qu'a amené l'App Store d'Apple, et on sait bien sûr que les App Store se sont répandus sur tous les systèmes de téléphone portable et aujourd'hui sur les tablettes aussi, donc peut amener cette évolution, voire révolution, sur le web en simplifiant énormément les choses. Yann, je sens que tu vas me dire certainement pas. Enfin, non, les démonstrations moi je les ai trouvées très convaincantes, hein, et c'est ça la nouveauté d'aujourd'hui par rapport au moment de l'annonce, c'est que ça fonctionne, c'est en passe de sortir, les développeurs sont en train de développer pour, et ça fonctionne.
Ouais. Moi je suis quand même super content qu'on aborde ce sujet parce que ça va me permettre de recentrer ou de reformuler ce que j'ai pu dire précédemment dans le rendez-vous tech. En ce qui concerne Chrome Web Store, moi je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça simple, je trouve ça clair, je trouve ça très pratique. J'ai hâte de voir le truc débarquer. Donc en fait, tout ce que tu viens de dire, je partage entièrement ton avis. Il y a absolument aucun sujet de discussion là-dessus. Il y a une phrase que je revois souvent en fin de compte sur la chat room ou dans les commentaires, c'est que Yann déteste le cloud. Alors je vais
donc je sais pas du tout pourquoi il pense ça.
Ben, c'est peut-être moi qui l'ai dit. Enfin, j'ai peut-être raccourci un petit peu trop ma pensée et on a l'impression que je déteste le cloud. Alors je vais redire ça. Ce que je veux dire, c'est que les interfaces qu'il y a dans un navigateur, pour moi, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose qui est là pour dépanner. Voilà, on n'a pas son iPhone ou on n'a pas son iPad ou son ordinateur ou son logiciel sous la main. Je suis chez ma grand-mère, j'ai pas mon Outlook, ben c'est super. Je vais pouvoir aller sur Gmail, qui est super bien fait. C'est top pour un truc en HTML. Et moi, je suis très content de pouvoir utiliser ces choses-là. C'est juste que voilà, je préfère un client lourd. Si j'ai le choix, je préfère à une page web. Voilà. Mais après, c'est une préférence qui est tout à fait personnelle et je comprends que des gens préfèrent l'opposé. Pour moi, voilà, une page web, c'est super pratique parce que tu peux y avoir accès de n'importe où. Et ce que fait Chrome Web Store, c'est vraiment très bien puisque quel que soit l'ordinateur sur lequel on va se connecter, on se log sur Chrome OS et on retrouve toutes ces applications qu'on avait déjà installées sur un autre ordinateur. C'est uniforme, c'est très bien. Donc moi, en ce qui concerne le Chrome Web Store, je trouve ça très très bien.
Mais là, on diffère peut-être un petit peu effectivement, puisque tiens, Jérôme dans la chatroom nous dit en fait Yann déteste les clowns, pas le cloud. On s'est fait tromper.
C'est probable.
C'est ce qui est là où on a une différence quand même, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'utilise pour le mail notamment et également pour les documents. Enfin, pour le mail, je n'utilise plus que Gmail et c'est pas uniquement une question de pratique. C'est que je trouve Gmail beaucoup plus performant que tous les autres clients lourds entre guillemets, que Outlook ou Outlook Express ou Entourage ou toutes ces choses-là. Beaucoup plus pratique et beaucoup mieux fait. Et accessoirement, le fait que on a énormément de machines connectées aujourd'hui et que quand on travaille dans le cloud, tout est sauvegardé quelque part dans le cloud et qu'on y a accès de n'importe où, pour moi, c'est vraiment salvateur parce que comme je travaille de partout, ici au bureau, sur mes appareils mobiles, et j'en ai plusieurs, je peux avoir accès aux mêmes données de partout. Et donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est pas simplement parce que je n'ai pas un véritable client lourd que je vais utiliser le web. C'est parce que je préfère utiliser le web vraiment. Aujourd'hui, si j'ai le choix, je choisis le web. Et c'est pas ton cas.
Ben écoute, je suis dans mon lit, je me réveille, j'ai mon iPhone juste à côté, c'est plus pratique j'ai directement dès que j'allume mon iPhone, j'ai directement la petite notification qui me dit voilà, j'ai 3 mails en attente, j'appuie juste sur l'icône et je vois mes 3 mails plutôt que de lancer le navigateur Safari sur l'iPhone et me loguer, etc. Tu vois, c'est un petit détail, tu vois, mais c'est juste que voilà, pour moi, c'est plus pratique. Ouais. Moi, j'utilise que 5% des fonctionnalités de Gmail, je crée pas de libellé, je mets pas de filtre, je gère pas de
Google.
Des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est juste, voilà, je check mes mails et quand je peux répondre en 3 mots, je réponds depuis mon iPhone. Quand ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, voilà, je vais sur mon client. Mais
tu
voilà.
Tu utilises quoi comme client, toi, pour ça?
Bah écoute, si c'est juste une phrase pour dire je suis en retard pour le.
Non, mais sur ton ordinateur.
Sur mon ordinateur, j'utilise Gmail.
Ah, donc voilà, d'accord.
Ouais. Okay. Mais c'est très rare puisque
dans
70% des cas, j'ai toujours mon iPhone dans ma poche et c'est plus pratique en fait pour moi. Et cet exemple, on peut l'utiliser pour plein de trucs. Skype, ben voilà, dès que j'allume mon ordinateur, Skype est lancé, tu vois. Je dois pas penser à me connecter sur Gmail pour être sûr de pouvoir recevoir un coup de fil sur Google Call ou je sais pas comment il va m'appeler.
Donc en
c'est juste une question de facilité.
Le web store est bon pour certaines choses, mais oui, tu restes sur ta position, effectivement, que je comprends aussi. Non, que je comprends tout à fait. On plaisante, on rigole, mais c'est sûr que les clients lourds, entre guillemets, ont aussi leur avantage. Entre parenthèses, Mirwin, dans la chatroom, nous dit qu'il faut quand même rester un petit peu français et qu'on ne dit pas Gmail, mais j'ai courrier, et je suis assez d'accord.
Surtout à Montréal, enfin surtout au Québec.
Oui, c'est vrai que tu dois avoir quand même beaucoup de trucs du genre. Mais par exemple, Gmail, est-ce qu'ils doivent le renommer? Parce qu'ils doivent tout renommer en français.
Non, Gmail, ça reste Gmail, mais enfin j'ai courrier. Mais par contre, ce midi, j'ai mangé par exemple un Mac poulet. Tu vois, et je te jure que c'est pas des blagues, hein. C'est un Mac poulet, et puis voilà quoi. Et puis, mais. Enfin, après, on pourra en discuter toute l'après-midi, quoi. C'est du lait une rencontre, au lieu de dire planifier une rencontre.
Ton son va et vient, j'ai l'impression que tu t'écartes du micro, en fait.
Ah, je suis vraiment désolé. Quand j'ai tendance à m'emballer, je m'éloigne du micro. Mais bon, voilà, effectivement.
Ah oui, quand on parle de Mac Poulet, je comprends.
Ah oui, c'est toute une histoire, hein.
Ok, bon bah écoute, je pense que effectivement, on n'ira pas beaucoup plus loin qu'on a déjà été dans cette histoire de Chrome Web Store. La prochaine étape, ça sera quand on le verra vraiment. Mais je pense que tous les deux, on est assez enthousiastes et puis ça a l'air de marcher pas mal. Donc
il y a Plante versus Zombie,
qui est effectivement un jeu magnifique.
C'est le premier truc que t'installes, quoi. Donc c'est vraiment bien.
Bon, bah j'espère qu'il sera bientôt disponible et on vous en reparlera quand ça sera le cas. Et on passe maintenant aux news et rumeurs un petit peu plus rapides. Donc ce que je vais faire, c'est que je lis les titres des news en question et si tu as une réponse à faire, je te laisse une seconde ou deux pour engager ta phrase et tu fais une phrase pour dire ce que tu en penses si tu veux le faire. Alors, première, c'est la Commission européenne qui rejette les plaintes anti-free pour son réseau 3G. Donc, on risque d'avoir un réseau 3G finalement, alors qu'il était un tout petit peu en difficulté dans certains aspects.
Ben, un concurrent de plus, donc tant mieux pour le consommateur.
YouTube Movies se lance en ce moment et donc il y a plein de films gratuits si vous allez sur youtube.com/movies et à l'avenir ils veulent faire très bientôt de la location et même de l'achat peut-être de films, mais en tout cas de la location. Ils sont en pourparlers avec les majors. Moi je dis il serait temps.
Ouais, moi je trouve ça génial puisque je pourrais enfin regarder des films de YouTube sur mon iPad puisque j'ai un iPad maintenant.
Ah, il faudra qu'on en parle un petit peu plus. Diaspora, ce concurrent à Facebook dont on vous avait parlé à l'époque où il y a eu ce gros scandale de vie privée. Diaspora avait été lancé en tant que petit projet par des universitaires qui ont reçu de l'argent d'énormément de gens comme ça qui voulaient financer le projet. Et ben, Diaspora sera lancé le 15 septembre.
No comment.
Bye bye ATI, bonjour AMD. La marque ATI de cartes graphiques qui était bien connue va disparaître en tant que marque puisqu'elle a été en fait rachetée par AMD il y a quelques temps et AMD va apposer sa marque sur les cartes graphiques ATI. C'est en somme toute assez logique puisqu'ils n'auront plus besoin de faire deux campagnes marketing différentes. Ça sera AMD qui fait des cartes graphiques et des processeurs.
Ouais, c'est logique.
L'event Apple mercredi, donc au moment de l'enregistrement, c'est dans deux jours. Comme on vous le disait, ils vont sans doute annoncer d'une part des nouveaux iPods, peut-être un iPod Nano qui ne serait qu'un écran de 3 cm sur 3. C'est la rumeur la plus persistante, avec évidemment l'iTV qui serait une évolution de l'Apple TV, qui serait une sorte d'iPod Touch sans écran qui se brancherait sur la télé et qui amènerait les apps sur la télé. Moi, j'y crois quand même un petit peu. Je ne sais pas si ça sera présenté aujourd'hui, mais j'y crois pas mal. Je vais faire une toute petite parenthèse un petit peu plus longue pour dire que j'ai deux prévisions pour cette annonce. Première prévision, l'arrivée du modèle d'abonnement sur l'iTunes Store, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter des applications, acheter des suppléments aux applications, mais on ne peut pas s'abonner à quelque chose. Je pense que le modèle financier d'abonnement va arriver dans l'iTunes Store. Et l'autre chose, c'est effectivement bon, l'iTV qui viendrait s'incruster dans une télé pour en faire une vraie partie et peut-être... ouvrir le l'ITV aux constructeurs, parce que Steve Jobs avait dit que le gros... c'est-à-dire que... Non, pas vraiment l'ouvrir aux constructeurs, mais tu places ton ITV dans la télé et il y a déjà un port ITV sur la télé. Parce que le truc qu'il disait, c'est que Steve Jobs, c'est qu'il n'y a pas de go-to-market strategy pour les boîtes de l'essor de set-top box, les box de services supplémentaires. Et ça serait un moyen très simple d'aller sur le marché, c'est-à-dire de dire vous pouvez acheter cette ITV, vous pouvez nous l'acheter, la mettre dans votre télé et vendre le tout, peut-être. Bon.
Ouais, c'est plus... On verra. Il y aura peut-être aussi l'iPhone 4 blanc, que je crois qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui l'attendent. Donc oui. Il va peut-être monter son goût. Mais...
Entre parenthèses, pour l'iPhone, la solution qui apparaîtrait en septembre serait non pas un changement du design, mais un iPhone vendu directement avec une sorte de bumper, vous savez, cette petite bande qui vient se placer autour de l'iPhone qui est fabriquée par Apple, une sorte de bumper simplifié qui serait en fait une sorte de supplément à l'iPhone qu'on peut mettre ou enlever et qui serait vendu avec tous les iPhones dans la boîte. Donc ça serait une sorte de redesign sans redesign qui serait très intelligent parce que ça veut dire que vous pouvez le mettre, donc c'est comme si votre iPhone était redesigné, mais vous pouvez aussi l'enlever si vous n'en avez pas besoin. Ça serait pas bête. Le reste, c'est plein de petites choses dont on va pas forcément vous parler parce que c'est pas super intéressant. Des rumeurs qui reviennent de tablettes Google plus Verizon, plein de tablettes différentes qui arriveraient pour Noël. Une campagne assez intéressante sur Chatroulette, une campagne marketing pour Last Exorcism. Je vous invite à aller la regarder si vous en avez l'occasion, et d'autres petites choses. Mais on va plutôt passer à la fin de l'émission avec notre traditionnel stratosphère. Bah oui, c'est les stats, tu vois.
Effectivement. Oui,
ça fait en fait 22 épisodes de la stratosphère que t'avais pas compris.
Je viens de. Qu'est-ce qu'il raconte, Patrick ? Ah ouais, effectivement, non, c'est stratosphère. Donc, effectivement, ça a plus de sens comme ça.
Oui, voilà. Donc, si comme Yann, vous n'aviez pas compris pendant les 22 derniers épisodes, eh ben, on vous donne l'occasion à nouveau en écoutant ce dernier épisode que nous a envoyé Guillaume.
Bonjour à tous. Selon une étude parue récemment dans Le Monde, le téléchargement illégal engendrerait 1 million de chômeurs en Europe d'ici à 2015 et un manque à gagner estimé à 240 milliards d'euros. Évidemment, l'étude est fortement décriée et contient des zones d'ombre, d'autant que la commissaire européenne chargée du numérique donne une analyse diamétralement opposée, puisque selon elle, la démocratisation du haut débit en Europe devrait générer plus d'un million d'emplois dans le même délai et une croissance de 850 milliards d'euros. Alors, quelles sont les forces en présence ? D'un côté, une industrie culturelle exsangue, régressive, incapable de s'adapter aux nouvelles technologies et qui a laissé l'illégal prendre durablement le pas sur le légal depuis une décennie. De l'autre, une politique européenne du numérique conquérante dont les investigateurs aimeraient que les prochains Google et Skype grandissent en Europe ou que les plateformes de téléchargement légal se démocratisent. Pour que les choses changent, ne faudrait-il pas que les patrons du culturel, établis depuis plusieurs dizaines d'années, consentent à céder une part de leur gros gâteau aux jeunes entrepreneurs du numérique. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que il a une opinion assez tranchée hein, sur la question de notre ami Guillaume.
Ah, je pense qu'on la partage. Hein. Ça me fait toujours rigoler. Enfin, ces trucs sur ce que cause le piratage, tu vois. Genre, enfin, avec la même philosophie, je pourrais dire que si François était allé dans son autre lycée, ben je serais sorti avec Stéphanie, parce que Stéphanie était sortie avec François plutôt que moi. Donc non.
Non, mais si, effectivement.
Dire, c'est pas parce que voilà quoi qu'il est pas là que forcément elle m'aurait choisi moi, tu vois.
Oui, donc, bon, c'est un petit peu étrange comme comparaison, mais je suis assez d'accord.
Tu vas couper, hein.
Tu es responsable de tout ce que tu dis, mon ami. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on disait, mais il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que disait Guillaume. Enfin, tout est intéressant, mais d'une part, c'est vrai que à vouloir brider Internet, on va peut-être empêcher d'autres Skype ou eBay ou Dieu sait quel autre entrepreneur génial de se développer, et l'industrie enfin les réseaux en Europe, les instances légales en Europe veulent que ces startups existent en Europe à l'avenir, et c'est à mon sens bien de les encourager. Et puis il y a autre chose, c'est que évidemment les stats qui sont toujours intéressantes en fonction de la personne à laquelle on demande, on peut les interpréter comme ci ou comme ça, ou on peut avoir telle ou telle stat. Et c'est sûr que si on demande à l'industrie du disque, ils vont vous dire ça va détruire tant d'emplois et faire perdre tant d'argent, bah évidemment, puisqu'ils regardent dans le domaine de l'industrie du disque, et l'Union européenne qui veut promouvoir les réseaux en général va vous dire bah oui, mais les réseaux d'un autre côté, ça va créer telle et telle quantité d'emplois et développer tel et tel capitaux et créer tel et tel gain. Donc oui, il faut voir de tel côté ou de l'autre, mais évidemment je pense que nous, dans le Rendez-vous Tech, on est tous plutôt du côté développons les réseaux, et j'irais même encore autre chose, excusez-moi, je suis un peu long, mais pour finir, c'est même pas que l'industrie du disque va perdre de l'argent et qu'il faut les laisser mourir. Moi, je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il faudrait que, plutôt que se lamenter sur le fait que leur business model change, ils devraient évoluer avec le business model, parce qu'il y a de l'argent à se faire, mais d'une autre manière. Et ouais, c'est ça qui est désespérant.
Par exemple, je sais pas, moi, s'associer avec un fournisseur d'accès pour pouvoir proposer de façon illimitée de la musique. Enfin, il y a plein de solutions.
Écoute, tu as bien mérité que je ne réponde pas à cette parce qu'elle est bien placée, j'avoue.
C'est une tentative d'évolution comme une autre.
Oui, non, bon, j'aurais des choses à dire, mais je vais pas le faire parce que tu l'as bien placée. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission, donc on va très doucement se diriger vers la conclusion, enfin vers la véritable fin, en donnant à notre ami Yann l'occasion de parler un petit peu de ce qu'il fait sur Internet, puisque ça fait quand même quoi, 2 mois qu'on t'a pas eu dans l'émission ?
Écoute, ouais, 2 mois, ça passe vite. Et j'écoutais religieusement les 2 derniers épisodes qui sont passés. J'avais envie d'être là, en fait, vous me manquiez, donc voilà, je suis content, j'ai fait un petit rendez-vous tech avec la chatroom, donc c'est super sympa. Si, comme d'habitude, hein, si vous voulez savoir ce que je fais, bien que je tweete pas trop en ce moment, puisque j'ai avec d'autres trucs que je fais, mais vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, donc ça n'a pas changé, twitter.com/yannallet, YA2NALET, et puis si vous voulez suivre Patrick, je crois que c'est... twitter.com/notepatrick, c'est ça ?
Exactement, merci bien. vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog patrickbeja.com, sur lequel vous aurez tous les liens vers tous les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, où je suis notepatrick. Et n'oubliez pas non plus notre ami Jeff, qui nous a quitté un petit peu plus tôt dans l'émission, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter, c'est @Jeff, tout simplement. Donc vous pouvez le suivre et suivre ses aventures de la Silicon Valley. Et enfin, si vous voulez d'autres podcasts parce que le nôtre ne vous suffit pas, et ben vous pouvez tout simplement aller sur nowatch.fm et vous y retrouverez toutes sortes d'émissions. Et quand je dis toutes sortes, c'est vrai, hein, puisque vous avez des émissions sur les séries télé, sur certains jeux vidéo comme World of Warcraft, par exemple, ou encore des podcasts dont on ne sait pas trop de quoi ils parlent, mais qui sont vraiment très sympas. C'est, je pense, au podcast de Will, Will & Co. Et bien sûr, c'est la rentrée, donc ils vont tous revenir en force. Certains étaient là pendant l'été, comme Season 1 et les podcasts auxquels je participe, puisque nous, on ne prend pas de vacances, mais les autres arrivent aussi avec la rentrée. Donc n'hésitez pas à aller voir sur nowatch.fm pour découvrir d'autres podcasts de qualité. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre pour voir quand on fera le live pour la conférence d'Apple le 1er septembre, ça sera à 19h. Si vous nous suivez sur Twitter, vous saurez tout et où nous retrouver grâce à notre ami Mathieu Blanco. Et ben c'est tout, on se dit donc à dans 2 semaines. Ça sera quand ? Ça sera le
14, non ?
13,
quelque chose comme
14.
Ça.
Ouais, je ne sais pas si je pourrais être là le 13, parce que je suis en vadrouille en Finlande. Donc peut-être le 14, peut-être qu'on enregistrera le 13 et puis sinon le 14 au plus tard. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? Non, ça sera le 13, je suis en Finlande la semaine suivante en fait. Ah, je m'y perds, c'est parce que j'avais
pas mon
Google
Calendar. Tu t'y
vois
déjà en
fait. Ouais, c'est ça. J'avais pas mon Google Calendar ouvert en fait, donc je vois.
Bah oui, le temps de lancer Chrome, d'aller dans Calendar, etc. Alors que moi j'ai cliqué sur le calendrier et puis voilà quoi. Mais bon, c'est
pas mal.
Détail.
Bien joué. Donc, ça sera bien le 13 et je serai là avec d'autres invités. Peut-être une petite surprise intéressante d'ailleurs, mais vous découvrirez ça le 13 septembre. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes semaines et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous.
Salut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.